Nzamba.
Nzambira samirana.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, c'est le journal de la radio Nzamba Agateka Kawe. Nous sommes le 15 juillet 2021, d'abord les titres. Il a nié l'existence des cas de disparition forcée au Burundi. C'est le président de la République, Evariste Ndayishimiye, qui répondait aux questions de nos confrères de la Radio France Internationale RFI. L'opposition qualifie les propos du président de complicité. Vous suivrez la réaction de professeur Charles Ndayishimiye, président de l'UPRONA en exil. La gestion du Covid-19 au Burundi inquiète la population. Des témoignages font état des cas de maladies dans les ménages qui ne sont pas rapportés. Le gouvernement, lui, tranquillise que la situation est sous contrôle. À suivre dans ce journal. À suivre également le procès de ce médecin du centre de santé Tchabara en commune Kigwena, acquitté par le tribunal de grande instance de Lumonge. Il avait été accusé de viol sur une patiente, une mineure de 15 ans. Rebonsoir et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Il n'y a pas de cas de disparition forcée au Burundi, a déclaré Evariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi, sur les ondes de la radio France Internationale RFI. Des propos pareils ne font que remuer le couteau dans la plaie des familles des victimes qui n'ont même pas eu accès au corps de leurs disparus. Propos de Charles Ndayishimiye, président du parti UPRONA, elle donc reconnu par le pouvoir de Gitega. Pour lui, cela montre que de tels crimes sont commandités par le pouvoir. Josine Kadzi.
Dans une interview exclusive accordée à la radio France Internationale, le président burundais Evariste Ndayishimiye nie la persécution et l'emprisonnement arbitraire dont les membres du parti CNL sont souvent victimes. Pour lui, ce ne sont que des criminels qui se cachent derrière les partis politiques qui sont appréhendés.
Les criminels toujours veulent se cacher dans des partis politiques. Quand il est criminel, il est criminel. Il n'a pas de parti politique, il n'a pas quoi que ce soit. Plutôt, il fallait dire, celui-là a été arrêté. Est-ce que c'est politique ou il est criminel? Donc ce que nous faisons, c'est effectivement rendre l'état de droit état de droit. Si vous êtes criminel, nous avons l'obligation de protéger les citoyens, de poursuivre et de juger les criminels.
Avis pourtant contredit par différentes déclarations et communiqués du parti CNL demandant la cessation des persécutions et arrestations arbitraires de ses membres. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a également nié l'existence des disparitions forcées au Burundi.
En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de disparition au Burundi. Sinon, vous me diriez, ah non, telle personne est disparue. Ce que je sais aussi, c'est qu'il y a des criminels qui, juste après le crime, ils vont au Rwanda. Et nous n'avons pas le droit d'aller fouiller au Rwanda. Et les gens disent qu'ils sont disparus, mais je sais qu'ils sont quelque part.
C'est triste et malheureux d'entendre le président Evariste Ndayishimiye déclarant qu'au Burundi, il n'y a pas de disparition forcée, dit le professeur Charles Ndayishimiye et président du parti UPRONA de l'opposition. Pour lui, cela démontre que ce sont les autorités burundaises qui sont les commanditaires de ces assassinats et veulent protéger les présumés auteurs de ces crimes.
Ces propos traduisent le déni de la réalité qui caractérise le système CNDD-FDD. Ça traduit aussi une arrogance, un mépris, un manque de respect envers les victimes, mais également envers les familles éprouvées. Et ça consacre les crimes et ça renforce l'insécurité un peu partout, puisque c'est le règne de l'impunité, on encourage les criminels. Ça traduit également l'intolérance politique qui caractérise le régime du CNDD-FDD, qui refuse toute voix dissonante, qui refuse le débat contradictoire, qui refuse le multipartisme, qui refuse la démocratie plurielle. Donc c'est un pouvoir dictatorial qui ne respecte pas les droits de l'homme.
Sur la question des réfugiés, Evariste Ndayishimiye a déclaré que ces derniers ont demandé des documents de voyage avant de se réfugier. Sur ce, ils pourront retourner de leur gré. Bref, il n'y a aucune menace, dit Evariste Ndayishimiye.
Le langage du président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, toujours sur la RFI, est de nature à décourager le retour des réfugiés. Pour lui, les réfugiés burundais n'ont pas subi de menaces avant de fuir le pays. Un langage dénigrant, selon Gervais Niwigira, le vice-président du réseau des citoyens RCP en sigle. Il demande au président de la République de changer son discours pour promouvoir le rapatriement des réfugiés dans la dignité. Écoutez-le.
Et il a dit que les réfugiés ont quitté le pays dans les volontés. Donc pour lui, il n'y avait pas de menace. parce qu'il dit que les réfugiés sont partis avec le passeport, un bus, un transport en commun. Donc pour lui, ce n'est pas des réfugiés comme les autres, comme il dit que ce sont des réfugiés spéciaux. C'est un langage qui ne rassurerait pas surtout les réfugiés, parce que parmi les réfugiés, il y a ceux qui ont quitté après avoir échappé à la mort, il y avait ceux qui avaient été emprisonnés. Donc aujourd'hui alors, parler que les réfugiés burundais sont des réfugiés spéciaux et qui vont rentrer là au moment où ils voudront rentrer. Donc c'est pour montrer que donc aujourd'hui il n'a pas la volonté de faire le rapatriement digne de ces réfugiés. Et donc c'est même une aberration pour le président. Et donc il voulait une chose et son contraire. Et d'une part, il demande que les réfugiés rentrent, mais aussi il dénigre leur comportement. Donc aujourd'hui, nous savons que dans la région de Garak et dans les pays comme le Rwanda, le Congo, et la Tanzanie et ailleurs, il y a beaucoup de réfugiés qui veulent rentrer. Mais avec son discours, il est difficile pour les réfugiés d'avoir la volonté de rentrer. Et parce que nous savons que personne ne peut être fier d'être en dehors de son pays, parce que ce n'est pas le tourisme. Ceux qui ont passé des années dans ces conditions le savent, et ce sont des conditions dures. Aujourd'hui, alors, nous demandons au président de considérer les réfugiés comme ils sont, non pas les dénigrer, et non pas les prendre comme des touristes qui ont quitté le pays de leur volonté.
Inzamba.
On parle santé à présent. La situation sanitaire liée au Covid-19 reste confuse au Burundi. C'est au moment où le ministère de la Santé affirme que la situation est sous contrôle. La population s'inquiète quant à elle du non-respect des mesures barrières contre cette pandémie. Le Burundi faisant partie des pays à haut risque de contamination du Covid-19 selon l'agence d'État américain en charge des voyages. Les détails avec Valérie Mucho.
Si l'on en croit au discours des autorités burundaises, la situation est maîtrisée. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, ne révèle pas cependant sa stratégie de lutte contre la Covid-19. Le chef de l'État a affirmé que la Covid-19 a été maîtrisée au Burundi. C'était ce mercredi, lors d'un entretien qu'il a accordé aux journalistes de Radio France Internationale et France 24, à la fin de sa visite en République démocratique du Congo.
Vous avez vu que même au niveau de la maîtrise du coronavirus, vous avez vu que le Burundi est parmi les meilleurs pays qui ont pu prévenir le Covid-19.
Son discours est contesté par des habitants de Bujumbura, contactés par la radio Inzamba. Selon leur témoignage, certains malades de la Covid restent dans leur ménage. Ces habitants affirment aussi qu'il n'y a plus de respect des mesures barrières, ce qui justifie la montée du nombre de cas de malades.
Les malades restent dans leur famille beaucoup plus que dans les hôpitaux d'ailleurs. Et ça doit être la raison pour laquelle le ministère de la Santé, de la lutte contre le sida, affirme qu'il y a moins de malades parce que les malades du Covid-19 ne sont pas tous dans les hôpitaux. Dire qu'il y a des actions du gouvernement qui sont beaucoup plus efficaces, je ne crois pas. Il y avait un peu partout des seaux et du savon pour se laver. Et là, oui, c'était vraiment, on pouvait dire que la population était suffisamment sensibilisée. On voit dans les églises où on avait multiplié les messes pour favoriser la distanciation sociale au niveau des lieux de grands rassemblements. Mais aujourd'hui, je dirais que même ces comportements ne sont plus beaucoup observés. Pour des masques qu'on a abandonnés, se laver les messes n'est pas vraiment très observé aujourd'hui.
D'autres témoignages affirment que dans différents hôpitaux, il y aurait beaucoup plus de morts liées à la Covid-19, mais que les autorités sanitaires s'abstiennent à dresser un bilan réel de ces cas. Les lamentations des habitants sont renforcées par la récente mesure de l'agence du département d'État américain en charge des voyages, qui a alerté le monde sur le Burundi. Cette agence classe le Burundi parmi les pays où il y a le plus de risques d'attraper le virus de la Covid-19 si l'on n'est pas vacciné. La dernière actualisation du bilan de la pandémie date de ce mardi et confirme 8 décès depuis le début de la crise et 166 cas actifs, du moins selon le ministère de la Santé burundais.
Merci Valérie Mucho. Il faut préciser que la nouvelle variante du Covid-19 signalée dans la sous-région n'inquiète pas le Burundi. Le ministre en charge de la Santé a indiqué que chaque pays dispose des stratégies de prise en charge des cas testés positifs. Écoutez le docteur Tade Ndikumana.
Ici, nous remercions le bon Dieu parce que nous avons eu trois souches, trois cas qui venaient de l'extérieur, un qui venait de l'Ouganda, deux qui venaient de l'Ouganda et l'autre de la Somalie. Et nous avons pris en charge efficacement ces cas. Il n'y a pas eu de décès. Ils sont guéris. Donc, ça dépend de comment chaque pays prend en charge les cas. Nous ne différencions pas les types de variants, mais on prend en charge tout cas positif. En témoigne qu'actuellement, il n'y a aucun cas en réanimation, il n'y a aucun cas en réanimation dans tout le pays. Mais nous avons au moins aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, 6 cas qui sont hospitalisés, mais qui ne sont pas graves et qui ne sont pas de ces variants. Donc il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Mais sinon, il faut que la population s'habitue. Les virus mutent chaque jour. Ce n'est pas ça qui compte. Plutôt, on avait parlé du variant sud-africain, brésilien. Cela est passé. Il y en aura d'autres. Mais l'essentiel, c'est la prise en charge des cas positifs efficaces.
Le tribunal de grande instance de Lumonge vient d'acquitter Niyomundiye Gibert, le médecin du centre de santé Tchabara en zone Kigwena de la commune de province de Lumonge. Il était accusé d'avoir violé son patient, une fille mineure de 15 ans. Les sources à Lumonge font savoir que la partie lésée aurait déjà interjeté l'appel. Les précisions avec Beni Akselakane.
Il était plus que temps. Les habitants de la province de Lumonge étaient impatients de voir le tribunal de grande instance de Lumonge se prononcer sur ce procès de flagrance qui s'est tenu ce mercredi. Mais autant leur impatience était grande, autant leur déception est incommensurable. Car dans la mi-journée de ce jeudi, le tribunal de grande instance de Lumonge a acquitté le médecin. Cependant, non satisfait du verdict, le parquet a fait appel et le médecin doit rester en détention. Les dernières informations indiquent en effet que le médecin a par la suite été acheminé vers la prison centrale de Lumonge à Minembwe, où il attendra la suite de son procès. Le ministère public représenté par le parquet avait requis contre lui 15 ans d'emprisonnement. La famille de la victime, elle, a demandé une indemnisation de 500 000 francs burundais et une somme de 130 000 francs correspondant aux frais liés à ce procès. Pour rappel, le médecin chef du centre de santé Tchabara, en zone Kigwena de la commune et province Lumonge, est accusé d'avoir violé une patiente, une fille mineure de 16 ans. À la barre, le médecin a affirmé qu'il a introduit des doigts dans l'appareil génital de la jeune fille avec son consentement, mais qu'il l'a fait pour une urgence, mais n'a pas expliqué le type d'urgence dont il s'agissait. Le ministère public, lui, qualifie l'acte de viol. Deux procès-verbaux montrent que le médecin reconnaît la faute. Il s'agit du procès-verbal du parquet et celui de la police judiciaire. Des informations à Lumonge indiquent que ce n'est pas la première fois que le médecin Gilbert viole ses patients. Des cas similaires se sont produits, mais l'affaire avait toujours été réglée à l'amiable, selon les mêmes sources. Depuis son arrestation la semaine dernière, les défenseurs des droits de l'homme à Lumonge avaient émis leurs inquiétudes selon lesquelles il y avait des tractations et une tentative de libération de ce médecin, un éminent membre du CNDD-FDD. Car en effet, Jean-Claude Ndikumasabo, directeur provincial de la santé à Lumonge, en collaboration avec des responsables du parti au pouvoir, manœuvrait pour sa libération. Ils auraient même tenté d'acheter le silence du père de la victime.
Le directeur de l'école fondamentale Kidasha Akiremba en province Ngozi mérite une sanction exemplaire. Réaction de la ligne Nibizi, parents et activistes des droits des enfants. Elle intervient après qu'une écolière de la sixième année à cette école ait accusé le responsable de cet établissement scolaire de l'avoir violée et engrossée. Le ministère de l'Éducation devrait donc agir pour mettre fin à ce genre de crime dans les écoles. On écoute Elali Nevids.
L'acte de viol d'un directeur de l'école est un acte criminel. C'est un signe qui manque de respect. Alors j'interpelle les parents pour qu'ils soient solidaires d'abord avec leurs enfants et qu'ils refusent la corruption que ce directeur tente de donner et que les autres parents de cette école soient solidaires pour soutenir cet enfant victime de viol. La dignité de cet enfant, sa jeunesse et son avenir ne peuvent pas être échangés contre de l'argent que ce directeur va donner et ne va pas résoudre le problème qu'il a causé. Il faut alors que la justice prenne ses responsabilités et condamne ce directeur et même donne une valeur ajoutée à la sanction parce que violer une mineure et surtout par le directeur de l'école, est un crime très grave. J'interpelle le ministère de l'Éducation qu'il soit sévère contre l'éducateur qui tente de nouer des relations tendancieuses avec les élèves et qui en arrive au harcèlement. J'interpelle les défenseurs des droits de l'homme, les organisations de femmes, pour qu'ils se lèvent, pour qu'ils protègent cet enfant. Parce que si le viol continue à être toléré dans les écoles, on ne peut plus rien attendre de l'éducation des enfants au Burundi.
Les anciens employés de la société de gestion des stations de lavage de café Sogestal Kayanza réclament 3 mois d'impayés de leur salaire. Ces employés disent aussi être victimes d'un licenciement abusif. Ils demandent aux autorités compétentes de suivre de près ce dossier. Ils accusent leur ancien employeur de violer les règles régissant les contrats à durée indéterminée. Plus de détails avec Trifine Kaniwawo.
Parmi ces employés, dont le nombre s'élève à une certaine figure personnelle administrative, les chefs des stations de lavage, les magasiniers. Alors qu'ils ne s'attendaient à aucun désagrément, ces employés font savoir que c'est au mois d'avril 2019 et à la surprise de tout le monde qu'une mesure de les licencier est sortie. Pourtant, les concernés disent qu'ils avaient signé avec la société un contrat de travail à durée indéterminée. Ils précisent en outre que lors de leur départ, ils n'ont bénéficié ni des indemnités de licenciement, ni des salaires des 3 derniers mois. En attendant, ils demandent au gouvernement de visiter les conventions qu'il avait signées avec la Sogestal, surtout celles relatives au traitement réservé aux employés au terme du travail.
Sogestal Kayanza nous doit 3 mois de salaire. On n'a jamais été contacté ou informé concernant les indemnités de préavis, les indemnités de départ, le recensement. Nous sommes dans une pauvreté extrême. L'entreprise versait des cotisations à l'INSS. Ce que nous avons à demander, c'est au gouvernement qu'il revoie son contrat avec la Sogestal, surtout celui de la protection des employés.
Signalons qu'actuellement, le secteur café est sous la gestion de l'Office pour le développement du café, ODK. L'achat du café cerise étant une de ses missions. La rédaction de la radio Inzamba a essayé de contacter par téléphone le directeur général de l'ODK sans succès.
Trifine Kaniwabo, merci. Et c'est par ici que prend fin cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Vous étiez avec Joséphine Johnson-Ndimana. Au revoir et à la prochaine.